Chapitre 8. Sur le chemin de la maison d'Arctor, où il était généralement sûr de trouver quelques freaks réunis pour une petite défonce relaxe, Charles Freck préparait un gag pour ce vieux Barris. Il n'avait pas oublié cette histoire de rat l'autre jour, au Fiddler's Tree, et voulait rendre à Barris la monnaie de sa pièce. Tout en évitant habilement les radars que la police planquait partout, les voitures radars utilisées par la police pour contrôler certains conducteurs prenaient d'ordinaire l'apparence de vieilles fourgonnettes Volkswagen complètement décaties, peintes marron terne et conduites par des freaks barbus. Quand Freck apercevait un de ces engins, il ralentissait. Il se projeta la séquence fiction de sa bonne blague en avant-première. Freck, mine de rien. J'ai acheté un plan de méthédrine aujourd'hui. Barris, avec son petit air méprisant.
La méthédrine, c'est comme la benzédrine. C'est du speed, c'est une amphétamine, c'est de la poudre. En tout cas, c'est synthétique et fabriqué en labo. C'est donc pas un produit naturel comme l'herbe. Un plan de méthédrine, ça n'existe pas.
Freck lui assénant le coup de grâce. Je veux dire que j'ai hérité 40 000 $ d'un vieil oncle et acheté un labo clandestin à un mec qui avait planqué toute son installation dans son garage et fabriqué sa méthédrine. C'est dans ce sens que... Freck s'en mêlait un peu dans sa formulation, car tant qu'il conduisait, il devait mobiliser une partie de son attention afin de surveiller les feux et les véhicules autour de lui. Mais il savait qu'une fois chez Bob, il étendrait Barris pour le compte avec cette histoire. Surtout s'il y avait du monde. Désireux d'épater la galerie, Barris mordrait à l'hameçon et passerait aux yeux de tous pour le trou du cul qu'il était. Ce serait un juste retour des choses, parce que si quelqu'un ne pouvait pas supporter de faire les frais d'une plaisanterie, c'était bien Barris. Au moment de se garer, il aperçut Barris et Bob Arctor devant la maison. Muni d'une boîte à outils, il s'affairait autour de la voiture d'Arctor, dont le capot était relevé. Freck claqua sa portière et s'approcha d'un air nonchalant.
Hey « Hé mec, hé hey Barris !»
fit-il en posant la main sur l'épaule de ce dernier, afin d'attirer son attention.
« Plus tard !» grogna Barris.
Il portait son bleu de travail, déjà sale au départ, mais encore agrémenté de cambouis. Freck plaça son
« J'ai acheté un plan de méthédrine aujourd'hui !»
Barris fronça les sourcils d'un air excédé.
« Gros comment ? »
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Ton plan ? Il est gros comment ?»«
Bouh !»
Freck perdait les pédales.
« Combien l'as-tu payé ?»
demanda Arctor, tout barbouillé lui aussi. Freck vit qu'ils avaient sorti le carburateur, la durite, le filtre à air et tout un bazar.
« Dans les $10 $, » fit-il.
« Jim aurait pu te l'avoir à plus bas prix, » répondit Arctor en se remettant au boulot.
« Pas vrai, Jim ?»«
Les plans de méthédrine, c'est tout juste si on les distribue pas gratis. »
« Mais c'est tout un garage, putain !» protesta Freck. « Une véritable usine qui sort 1 000 000 de cachets à la journée, avec tout l'équipement pour le conditionnement, tout, tout !»«
Pour $10 $ ?» demanda Barris, le sourire jusqu'aux oreilles.
« Où il se trouve, ton truc ?» ajouta Arctor.
« Pas par ici. »
Freck ne se sentait pas à l'aise.
« Hé, lâchez-moi un peu, les mecs !»
Barris fit une pause. Il en faisait beaucoup dans son travail, et il n'avait pas besoin de public pour cela.
« Tu sais, Freck, si tu prends trop de mètres, ou si tu te shootes, tu commences à parler comme Donald Duck. »«
Et alors ?»«
Alors personne ne comprend ce que tu racontes. »
Arctor intervint. « Qu'est-ce que tu dis, Barris ? Je comprends rien à ce que tu racontes. » Visiblement ravi, Barris fit son imitation de Donald Duck. Ça eut l'air de plaire à Freck et à Arctor. Barris continua, s'en prenant finalement au carburateur.
« Que va-t-on faire au sujet de ce carburateur ?» demanda Arctor, qui ne souriait plus.
Barris reprit sa voix normale, mais sans se départir de son sourire narquois.
« Ta buse est tordue. Faudrait refaire tout le carburateur, sinon la buse va se bloquer pendant que tu rouleras sur l'autoroute, tu te retrouveras avec un moteur noyé et un type te rentrera dans le cul. Et pour peu que ça dure, tout le carburant qui te lessivera les parois des cylindres chassera la graisse et tes cylindres seront rayés, foutus. Faudra les réaliser.
« Pourquoi la buse est-elle tordue ?» demanda Arctor.
Barris haussa les épaules sans répondre et continua de démonter le carburateur. Il laissa la question en suspens, car ni Freck ni Arctor ne connaissaient rien à la mécanique, surtout lorsqu'il s'agissait de réparations délicates comme celle-ci. Vêtu d'une chemise super chic et d'un jean serré, Luckman surgit de la maison. Il portait des lunettes noires et tenait un livre à la main. J'ai téléphoné au garage. Ils sont en train de calculer à combien te reviendrait la remise à neuf du carburateur. Ils rappelleront, alors j'ai laissé la porte ouverte.
Tu pourrais demander qu'on t'installe un modèle à quatre chambres au lieu de tes deux tant que t'y es, dit Baris. Mais ça veut dire qu'il faudra faire poser un nouveau collecteur. On pourrait s'en procurer un d'occasion pour pas très cher.
Le ralenti serait trop fort, contra Luckman. Si tu prends par exemple un Rochester à quatre chambres, c'est un truc comme ça que tu avais en tête. Et les vitesses passeraient mal. La montée des rapports ne se ferait pas.
On pourrait mettre des gicleurs de ralenti plus petits, suggéra Baris. Ça compenserait. Et avec un compte-tour, il pourrait contrôler le régime de manière que son moteur ne s'emballe pas. Le tachymètre lui indiquerait quand la montée des rapports ne se fait pas. Normalement, dans ces cas-là, il suffit de donner un coup d'accélérateur si la transmission automatique ne suffit pas. Et je sais où on peut se procurer un compte-tour. En fait, j'en ai un.
Oui, fit Luckman. Mais s'il forçait un peu trop sur le démultiplicateur en cas d'urgence sur l'autoroute, la vitesse ne passerait pas et le moteur s'emballerait au point de faire péter le joint de culasse ou pire. Bien pire. C'est tout le moteur qui y passerait.
Baris fit preuve de patience. Il serait alerté en voyant l'aiguille du compte-tour s'affoler et réagirait.
En doublant, insista Luckman. Pendant qu'il serait en train de doubler un foutu semi-remorque. Merde, il n'aurait pas le choix. Il devrait foncer et non retomber en arrière, quitte à bousiller le moteur parce que sinon, il n'arriverait jamais à contourner l'obstacle.
La vitesse acquise, rétorqua Baris. Dans un véhicule de ce poids, la vitesse acquise lui permettrait de passer même s'il ralentissait.
Et dans les montées, dit encore Luckman. La vitesse acquise ne te mène pas très loin quand tu doubles dans une montée.
Baris se tourna vers Arctor. Combien est-ce que cette... Il se pencha pour voir la marque. Cette Oldsmobile? Arctor devança la question. Environ une demi-tonne. Charles Freck le vit cligner de l'œil en direction de Luckman. Dans ce cas, tu as raison. Un véhicule aussi léger ne lui donnerait pas la force d'inertie suffisante. Encore que...
Il cherchait un stylo et un bout de papier.
Une demi-tonne à 130 km/h, ça développe une force égale à...
Arctor l'arrêta. Il faut compter une demi-tonne avec les passagers, un réservoir plein et un gros carton de briques dans le coffre.
Combien de passagers ? Demanda Luckman, sérieux comme un pape.
12.
C'est-à-dire 6 à l'arrière et 6...
Non, 11 à l'arrière et le chauffeur tout seul devant.
Comme ça, vois-tu, il y a plus de poids sur les roues arrière et ça augmente l'effort moteur. Et pas de risque de queue de poisson.
Baris releva vivement les yeux. Elle chasse, cette voiture ?
À moins qu'on ne case 11 personnes à l'arrière, dit Arctor.
Dans ce cas, il vaudrait mieux remplir le coffre de sacs de sable, répliqua Baris. 3 sacs de 200 livres. Ça permettrait une meilleure répartition des passagers, qui se trouveraient plus à l'aise.
Luckman surenchérit. Et pourquoi pas une caisse de 600 kilos d'or, à la place de 3 sacs de...
Vous allez arrêter un peu de déconner, coupa Baris. J'essaie de calculer la force d'inertie de cette voiture à 130 à l'heure.
Elle ne roulera jamais à cette vitesse, dit Arctor. L'un des cylindres est foutu. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. J'ai coulé une bielle hier soir, pendant que je revenais du 7-Eleven.
Alors qu'est-ce qu'on fout à démonter le carburateur ? S'exclama Baris. C'est toute la culasse qu'il faut enlever. Et peut-être beaucoup plus. En fait, il se peut que tout le bloc soit HS. C'est pour ça qu'elle refuse de partir.
Charles Freck s'adressa à Arctor.
Ta voiture refuse de partir ? Elle refuse de partir parce qu'on a ôté le carburateur, fit Luckman.
Cette phrase plongea Baris dans la perplexité. Pourquoi a-t-on fait ça ? J'ai complètement oublié.
Pour remplacer les ressorts et autres bricoles, dit Arctor. Pour que ça ne se mette pas encore à déconner en risquant de nous tuer. C'est le mécano d'Union Station qui nous l'a conseillé.
Si vous arrêtiez un peu de jacasser comme la bande de speedés que vous êtes, lança Baris. Ça permettrait de terminer mes calculs et de vous dire comment cette voiture, pesant tel poids particulier, se comporterait avec un carburateur Rochester à quatre chambres auquel on aurait adapté comme il se doit des gicleurs de ralenti plus petits.
Il râlait vraiment à présent.
Alors bouclez-la !
Luckman ouvrit son livre et bomba le torse de façon spectaculaire, faisant aussi jaillir ses biceps.
Baris, je vais te faire la lecture.
Et il commença avec beaucoup d'aisance.
Celui à qui il est donné de voir le Christ plus réel que toute autre réalité.
Hein ? S'exclama Baris.
Que toute autre réalité de ce monde, le Christ présent partout et toujours plus présent. Le Christ, détermination ultime et principe plasmatique de l'univers.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Arctor.
Teilhard de Chardin.
Luckman, je rêve.
Celui-là vit en lieu où la détresse de la multiplicité ne peut l'atteindre, et qui constitue pourtant le plus actif atelier de l'accomplissement universel.
Luckman referma son livre. Soudain terriblement inquiet, Charles Freck s'interposa entre Baris et Luckman.
« Calmez-vous, les gars !»« Ôte-toi du passage, Freck !» fit Luckman, en ramenant son bras droit près du corps, très bas, comme s'il s'apprêtait à lancer un vaste uppercut en direction de Baris.
« Allez, Baris, amène-toi! Je vais t'étendre pour le compte et jusqu'à demain, histoire de t'apprendre à parler comme ça à ceux qui valent mieux que toi !»
Baris laissa tomber papier et stylo avec un bêlement terrifié et bâtit une retraite désordonnée vers la maison, tout en jetant par-dessus son épaule.
« J'entends le téléphone. C'est les types qui rappellent pour le carburateur. »
Ils le regardèrent disparaître par la porte ouverte.
« Je le faisais marcher, » dit Luckman, en frottant sa lèvre inférieure.
« Et s'il va chercher son flingue avec le silencieux ?»
Freck ne se maîtrisait plus. Il se rapprochait par petits pas de sa propre voiture, de manière à se jeter dessous si Baris réapparaissait en ouvrant le feu. Arctor se tourna vers Luckman. « Allons, » dit-il, et les deux hommes se replongèrent dans l'examen de leur véhicule, tandis que Freck continuait à tourner craintivement autour du sien, en se demandant ce qui lui avait pris de venir ici aujourd'hui. On était loin de la bonne ambiance habituelle, vraiment très loin. Dès le début, Freck avait senti, sous les plaisanteries, les mauvaises vibrations. « Merde, qu'est-ce qui tourne pas rond ?» se demanda-t-il en prenant place derrière le volant. Est-ce que ça va devenir dur ici aussi, comme chez Jerry Fabin, dans les dernières semaines? C'était pourtant relax avant, avec tout le monde qui prenait son pied et s'éclatait en écoutant de l'acid rock, les Stones surtout. Donna avec son cuir et ses boots, en train de préparer les capsules. Luckman roulant des joints et racontant à tout le monde le séminaire qu'il comptait tenir à UCLA sur l'art de fumer et de rouler. Il disait qu'un de ces jours, il roulerait le joint parfait et que ce joint-là serait placé sous verre, conservé dans l'hélium. À Constitution Hall, avec d'autres pièces aussi importantes qui faisaient partie de l'histoire américaine. Quand j'y repense, même l'autre jour au Fiddler's avec Baris, même alors c'était pas comme ça. Tout a commencé avec Jerry, et maintenant ça vient par ici, le même truc qui a bousillé Jerry. Comment des journées et des moments aussi heureux peuvent-ils tourner aussi vite au désastre, et sans raison véritable? Simplement le changement, causé par rien.
« Je me tire !» lança-t-il finalement à Luckman et Arctor, qui le regardaient s'emballer tout seul. « Non, reste ! Hé, mec !» fit Luckman chaleureux. « On a besoin de toi ! Tu fais partie de la communauté ! Non, je me casse !»
Baris émergea de la maison, un marteau à la main.
« Faux numéro !» claironna-t-il,
en s'avançant très, très prudemment, s'arrêtant de temps à autre pour lancer un coup de périscope. On aurait dit un crustacé géant dans une série B de drive-in.
« Pourquoi le marteau ?» fit Luckman.
« Pour réparer le moteur, » dit Arctor.
« Je me suis dit que tant qu'à faire, je pourrais l'apporter, »
expliqua Baris en trottant vers l'Oldsmobile,
« vu que je suis tombé dessus pendant que j'étais dans la maison. »
« L'individu le plus dangereux, » prononça Arctor, « est celui qui a peur de sa propre ombre. » Ce furent les derniers propos qu'entendit Charles Freck avant de s'éloigner, et ils lui donnèrent à réfléchir. Arctor avait-il voulu parler de lui ? Il eut honte. Mais enfin merde, pourquoi traîner dans le coin quand le trip tourne aussi mal? Qu'est-ce que ça a de dégonflé? Pas participer au mauvais trip, mec. Voilà la règle, dut-il se rappeler. C'était sa devise. Qui veut de ça? Mais ça lui faisait mal, vraiment mal, de laisser les autres après avoir vu leur ciel s'assombrir. Et il se demanda encore pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire? Et il lui vint à l'idée que peut-être les choses iraient mieux à nouveau. Et ça le réconforta. Au point qu'il se projeta un court-métrage tout en manœuvrant pour éviter les voitures invisibles des flics. Et ils se trouvaient tous là, réunis comme avant. Tous, même ceux qui étaient morts ou complètement cramés, comme Jerry Fabin. Ils se trouvaient tous là, baignés par une belle lumière blanche qui n'était pas celle du jour, mais plus belle encore, comme une mer qui s'étendait sous eux, mais qui les recouvrait aussi. Donna et une paire de filles tellement désirables. Elle portait des corsages à dos nus et des shorts, et pas de soutien-gorge. Il entendait de la musique, mais sans pouvoir reconnaître quelle plage de quel album. Hendrix peut-être ? Oui, un vieux morceau de Hendrix. Et puis soudain, ce fut Janis Joplin.
tous. Jim Croce et Janis Joplin, mais surtout Hendrix. Avant ma mort, murmurait Hendrix, laissez-moi mener ma vie comme je le veux. Et la séquence fiction creva comme un ballon, car il avait oublié que Hendrix était mort, et aussi comment lui et Joplin étaient morts, sans parler de Jim Croce. Surdose de poudre pour Hendrix et Janis Joplin, deux êtres comme cela, deux humains scandaleux, et il se rappela que le manager de Janis ne lui donnait jamais que 200 tickets de temps à autre. Elle ne pouvait pas disposer du reste, de ce qu'elle avait gagné, à cause de son habitude. Et puis, il entendit résonner dans sa tête la clameur de Janis, « All is loneliness », et se mit à pleurer. Et rentra chez lui, comme ça.